Aujourd'hui, c'est message numéro 37 dans la série Épître aux Romains. Dernier message, c'est la conclusion. Un peu résumé, un parcours rapide, juste pour nous rappeler les choses qu'on a vues ces derniers mois. Donc, premièrement, il faut rappeler que l'Épître aux Romains est vraiment divisé en deux parties, d'accord? La première partie est l'explication de l'Évangile et la seconde partie du livre enseigne comment mettre en pratique la foi en Jésus-Christ. Entre les deux parties, on a l'explication de la nécessité de croire en Jésus-Christ et aussi l'importance de l'évangélisation. Donc, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 14. Là, Paul proclame dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » L'Évangile est pour tous parce que tous sont morts dans leur péché. Donc, la première partie du livre, chapitre 1 à 8, met en relief la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle rend accessible le salut au pécheur. Quoi que soit son origine, sa nationalité, son éducation religieuse, ses péchés. Puis, à la fin de la première partie, chapitre 9 à 11, Paul insiste sur la nécessité de croire en Jésus-Christ et pour faire ça, il utilise le peuple d'Israël comme son exemple. Croire est un acte de la volonté humaine. C'est la soumission d'une personne à son Créateur. L'incrédule, quoi que soit son origine familiale, parce que le contexte là dans chapitre 9, 10 et 11 est surtout le judaïsme, l'incrédule, quoi que soit son origine familiale, est incrédule. Il reste incrédule. L'incrédulité aussi est un acte de la volonté humaine. Elle manifeste la rébellion contre Dieu et contre son évangile. Parce que par la mort de son fils Jésus-Christ, sur la croix, Dieu a fait ôter le péché du monde et Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Cependant, seul le croyant peut bénéficier des bienfaits de l'Évangile. Puis la seconde partie du livre, donc chapitres 12 à 16, s'adresse aux croyants. Et quand je dis croyants, je ne veux pas dire les enfants des parents chrétiens. Je veux dire les personnes qui ont cru elles-mêmes à la première partie du livre, c'est-à-dire qui ont cru à l'Évangile. Dieu ne fait rien inutilement. Il ne veut pas non plus que votre vie de chrétien soit inutile. Au contraire, Jésus veut que vous portiez beaucoup de fruits. Quand il vous a sauvé de vos péchés, il vous a donné des capacités de service. Service dans le grand plan de Dieu. Et nous appelons ces capacités de service par le nom de dons spirituels. Croire en Jésus a pour effet de faire passer le croyant de la mort à la vie. C'est un miracle divin. Croire en Jésus-Christ est la fin de la vie ancienne et le point de départ de la vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, donc si une personne est sauvée, est devenue croyant en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous lisons ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Ainsi, le moment même que vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous a fait naître de nouveau. par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a, on a ce mot dans la Bible, il vous a vivifié, il vous a rendu vivant. Il a donné vie à votre esprit qui, jusqu'à ce moment-là, était mort. Et en même temps, il a pris résidence dans votre esprit. Et grâce à votre don spirituel, le Saint-Esprit vous rend utile. Et donc, Dieu, pendant votre vivant, eh bien, il veut que vous lui consacriez votre personne, votre être. Il veut que vous vous donniez au service de Dieu, de votre plein gré, pas force, mais de votre plein gré, par votre volonté, pour vivre selon la justice divine. Ceci veut dire vivre sous l'autorité de Dieu, conformément à la parole de Dieu, marchant selon sa volonté. Jésus exprime nettement sa volonté en disant, dans Jean chapitre 14 et verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'Évangile fait en sorte que celui qui a la foi en Jésus-Christ est en paix avec Dieu. Il n'y a plus question d'être mis en enfer à cause de nos péchés. On est en paix avec Dieu. Cependant, Romains chapitre 6 insiste que cette vérité de notre paix avec Dieu ne donne pas le droit de faire le mal. Si vous ne mettez pas le Seigneur Jésus-Christ dans la place d'honneur dans votre vie de chrétien sera obligatoirement bancale, déséquilibrée. Car Romains 8:8 nous dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pourquoi un chrétien ne voudrait-il pas plaire à Dieu? Eh bien, Jésus dit que ce serait par manque d'amour envers lui, faute de comprendre combien Jésus lui a pardonné. Donc, dans le contexte, il dit celui qui a été pardonné beaucoup, aime beaucoup, et celui qui a été pardonné peu, aime peu. Et donc, l'idée, c'est celui qui comprend qu'il a été peu pardonné, il dit, bof, c'est rien. Et donc, il n'a pas de réaction positive envers le Seigneur Jésus. Et ça, c'est triste. Ça, c'est dans Luc, chapitre 7, verset 47. Et donc, c'est pour cela que dans la seconde partie de l'Épître aux Romains, Paul commence avec l'exhortation, ou on peut dire l'admonition, ou on peut même dire la supplication de vous consacrer à Dieu. Et donc, Paul appelle ça un sacrifice vivant. Après l'explication de l'Évangile avec ses bienfaits éternels et l'invitation de croire en Jésus-Christ, qui sont dans la première partie du livre, eh bien, Paul dit tout de suite dans la seconde partie du livre que la vie du chrétien, la vie vraiment chrétienne, découle de la consécration du chrétien, la consécration du croyant, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et dans cette idée-là, c'est l'idée que vous allez vous couper de l'impureté de votre vie passée. Et vous allez soumettre votre vie future à Dieu. Cette consécration est une soumission continuelle. Donc ça commence quand même quelque part. On est sauvé, on a cru en Jésus-Christ et puis dit consacrez-vous à Dieu. Que votre vie soit un sacrifice vivant, n'est-ce pas? Donc, ça commence quelque part, mais ça continue. Ça continue tout à travers de notre vie. Une soumission continuelle à l'autorité de Dieu dans notre vie. Cependant, cette soumission a besoin d'instruction. Dieu ne veut pas qu'on se soumette à n'importe quelle chose. Ce n'est pas à la volonté n'importe quoi du pasteur que vous devez vous soumettre. C'est à la parole de Dieu. L'instruction vient de la parole de Dieu. Pour arriver à mettre en pratique la vie nouvelle en Christ, il nous faut des nouvelles informations qui sont différentes des informations que nous avons ou dans le monde. Comment changer votre vie si vous ne changez pas d'abord vos pensées? Pour le chrétien, le renouvellement intellectuel se construit sur la parole de Dieu. Il faut remplacer les pensées du siècle présent avec les pensées de Dieu et la pratique de l'amour. Dans les chapitres 12 à 15, Paul s'est beaucoup reposé sur le contexte de l'Église locale pour l'expression de l'amour envers les chrétiens et le respect comme expression de l'amour envers ceux qui ne sont pas chrétiens. La consécration et le renouvellement intellectuel sont motivés par l'amour pour celui qui nous a sauvés, c'est-à-dire la volonté de plaire à Dieu. Et on va revenir sur ce thème-là quand je vais parler tout à l'heure de l'Église locale. Dans son épître, Paul parle de la résurrection. Dieu est en train de mener à bien le plan qu'il a conçu avant la fondation du monde. Nous approchons à la dernière période de ce plan, à la dernière période de l'histoire de l'humanité sur la terre. Pendant cette dernière période, encore future, le Christ va régner personnellement sur la planète à partir de Jérusalem, sur une terre restaurée. Et par la suite de son royaume, qui va durer 1000 années, eh bien Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où les croyants jouiront de l'éternité, ce que l'on appelle, au moins moi je l'appelle, l'état éternel. Selon l'Évangile, par son sacrifice, Jésus lui-même a obtenu cet avenir éternel à tous ceux qui croient en lui. C'est Jésus qui a obtenu ça. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 5 avec le livre avec les sept sceaux. Et c'est que Jésus qui peut ouvrir ce livre qui va aller jusqu'à la fin de notre planète et entrer dans l'éternité quand on lit l'histoire dans l'Apocalypse. Ces deux dernières étapes, donc le royaume millénaire et l'état éternel, sont ensemble appelées la résurrection. Jésus est ressuscité et sa résurrection assure la résurrection de chacun. Quand je dis chacun, ça veut dire que les non-croyants vont ressusciter aussi et les croyants vont ressusciter. Et donc aussi le plein accomplissement du plan de Dieu. Dieu déclare avoir mis son Saint-Esprit dans chaque croyant pour nous assurer de notre résurrection et de notre participation dans les plans éternels de Dieu. On lit dans Romains chapitre 8 et verset 11. Et si, dans le mot si, dans ce contexte, pour dire aussi puisque, donc j'ai dit puisque, et puisque l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que vous allez ressusciter. Au chapitre 8, Paul a conclu, et on a lu le verset auparavant, Paul a conclu que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je vais lire verset 32 qu'on n'a pas lu tout à l'heure. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc l'idée, c'est si Dieu a permis la mort de son fils pour nous sauver, eh bien, c'est obligé qu'il va respecter la mort de son fils pour nous sauver. Autrement, ça veut dire, ça aurait dit, c'est conditionnel, autrement, que Dieu a permis la mort de son fils et que Dieu n'a pas de respect pour son fils et il nous laisse mourir. Et ça, c'est impossible. Dieu nous sauve par amour pour son fils. En attendant la dernière période de l'histoire sur la terre, Romains chapitre 9 à 11 affirme que Dieu continue à aimer son peuple, le peuple d'Israël. Mais, qu'en dépit de son amour pour son peuple, Dieu ne peut sauver que celui qui croit en son Fils. Nous apprenons aussi, dans ces trois chapitres, que le christianisme d'origine païenne, donc notre christianisme non-juif, perdra les faveurs de Dieu à cause de son incrédulité. Et ça, c'est triste aussi. Paul est sans pitié avec ce faux christianisme, les fausses enseignants et les mouvements non-bibliques qui égarent les fidèles de la vérité. Il dit dans Romains chapitre 16 et verset 17, « Je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Alors, c'est la même chose que Jésus a dit concernant les fausses enseignants et leurs invitations quand il a dit « Ne les croyez pas » et il a dit « N'y allez pas » donc il a dit « Ne pas aller les voir ou les écouter » dans Matthieu chapitre 24, versets 23 et 26. Donc, frère, il faut écouter ces avertissements de la parole de Dieu. Gardez votre distance et ne les écoutez pas. C'est pour cela même que nous, en tant qu'assemblée, nous restons à l'écart du grand christianisme moderne et de l'écuménisme. C'est pour plaire à Jésus que nous gardons sur notre petit côté-là. Dans son épître, Paul parle aussi de la réalité du problème du péché. Il est impossible de parler de la bonne nouvelle sans parler aussi de la mauvaise nouvelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, dans notre nature humaine, fait en sorte que tout être humain soit séparé du Dieu saint et destiné à y rester pour l'éternité. Ce mauvais cœur, donc notre nature humaine, se trouve dans tous les êtres humains. Il n'y a personne mis à part, hein, on est tous pareils. Mais elle se manifeste de manière différente chez chacun. Certes, certains péchés sont plus graves que d'autres. Pourtant, les péchés ressortent tous de la même nature humaine, la même semence du mal qui est dans le cœur humain. Jésus a dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans Matthieu chapitre 15, verset 19. Pour la expliquer au début de son épître, qu'en fuyant le Dieu saint créateur, l'humanité développe toute espèce de religion, de croyance, de pratique, etc. Nous appelons l'ensemble de ces pratiques, et les pratiques anciennes et modernes, on les appelle par le nom de paganisme. L'agnosticisme, qui est la volonté de ne pas choisir Dieu, et l'athéisme, qui est la croyance que Dieu n'existe pas, sont des formes modernes du paganisme. La parole de Dieu déclare que toute personne reconnaît l'existence de Dieu par ses œuvres dans la création. Devant Dieu, il n'y a aucun athée. Puisque Dieu s'est assuré que toute personne puisse reconnaître son existence. Ça ne veut pas que chaque personne reconnaisse son existence, mais il peut s'il veut. La conclusion est que tous sont coupables, coupables sur les niveaux intellectuels, moral et spirituel. Le péché et la mort sont donc des réalités de notre existence. Mais Dieu n'aime pas cette situation. Par amour de ses créatures humaines, Dieu a prévu une solution unique pour sauver l'humanité. La solution, c'est la bonne nouvelle, l'Évangile. Par grâce, Dieu pardonnera toute personne qui aura confiance en son Fils par l'Évangile. En expliquant la grâce et la foi, Paul montre comment Dieu a choisi un homme, Abraham, donc 21 siècles avant Jésus-Christ, du milieu du paganisme. Par Abraham, Dieu allait premièrement susciter un peuple. Par la suite, il allait faire enregistrer les livres sacrés inspirés que nous appelons les Écritures ou la parole de Dieu ou la Bible. Et troisièmement, il allait envoyer le Sauveur dans le monde, le Fils d'Abraham. Par ce choix délibéré, Dieu a pris Abraham pour représenter à la fois les païens dont il est issu et les juifs qui sont ses descendants. Ainsi, l'Évangile est un message pour tout peuple, pour toute personne, homme, femme et enfant. Toute personne qui croit en Jésus-Christ est justifiée par Dieu sur la base de l'Évangile. Et Dieu ne pose qu'une seule et unique condition, la foi. Il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, pour ceux qui sont sauvés, Dieu parle de la lutte. Il y a une lutte. Hein? Toute personne qui a cru en Jésus-Christ sait que la vie chrétienne n'est pas sans difficulté. Hein? Paul résume le cri de nos âmes, de moi et de vous, en Romains chapitre 7, verset 24, quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette morte ?» Et nous connaissons tous cet cri, n'est-ce pas? Romains chapitre 7 parle de cette lutte dans chaque croyant entre notre ancienne nature en tant qu'être humain et la nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu en devenant croyant en Jésus-Christ. Cette lutte est certaine et durera pendant toute notre vie. Oui, cette lutte existe, il ne faut pas la nier, elle existe. Et quoi que soit le nombre de vos victoires, et malgré tous vos défaits, Dieu se porte garant pour accomplir en vous son œuvre du salut. Amen. Voici donc quelques conseils généraux que Paul inclut dans son épître pour réussir la vie. Donc il parle aux chrétiens. Puisque vous appartenez au Seigneur, il dit, donc je vais donner 1, 2, 3, 4, 5 conseils généraux, vivez pour le Seigneur, hein, en vous faisant toutes choses à la gloire de Dieu. Seconde chose, respectez les autorités, car elles sont établies par Dieu pour maintenir l'ordre afin que nous puissions vivre tranquillement et prospérer. Donc, il est bien de prier pour les autorités. Troisième chose, vivez dans la lumière, comme dans la journée. Quatrième chose, vaincre le mal par le bien. Et la dernière chose, ne nourrissez pas vos convoitises charnelles ou naturelles. En plus de ces principes généraux, Dieu vous a donné votre église locale pour vous aider à vaincre le mal et le péché. Quand je dis église locale, je veux dire les frères et sœurs de votre communauté chrétienne, les personnes et non pas les bâtiments. Les chrétiens ont besoin de communautés chrétiennes, des églises locales pour nourrir, pour soigner, pour veiller sur le bien les uns des autres, pour l'entraide, pour le conseil, les enseignements, la discipline et la création de projets ensemble. Par exemple, pour l'envoi des missionnaires et l'évangélisation, on a besoin de notre église locale. Paul dit que l'église locale fonctionnera bien seulement grâce aux bonnes dispositions et à la pleine connaissance de ses membres. Il insiste sur l'amour, l'humilité, la participation et un bon enseignement biblique sur les niveaux doctrinal et pratique. Le commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres est la colle et la vie de la communauté chrétienne. Nous devons veiller à ce que l'amour reste présent au milieu de nous. Quand se manifeste l'égoïsme et le sectarisme, nous devons les reconnaître et les éloigner de nos personnes et de notre communauté. Donc maintenant, je vais donner quelques conseils spécifiques concernant la communauté chrétienne exposée par Paul dans son épître. Et il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pense. Premièrement, l'église locale a besoin de la participation de chacun et chacune. Second, vivons en plein accord entre nous. Troisième, respectons les différences qui pourraient exister chez les uns et les autres. On a parlé de ça longuement. Ayons de la déférence et de la patience. Cherchons à nous plaire les uns aux autres. Soyons pleins de bonnes dispositions. Avançons dans la connaissance de la foi et dans la pratique de la foi. Gardons en mémoire que chacun rendra compte pour lui-même au tribunal de Christ. Et enfin, soyons des chrétiens véritablement évangéliques. Donc des chrétiens évangélisants, hein, qui évangélisent. Donc voilà, l'évangélisation est très importante. Dans 2 Corinthiens, Paul dit que chaque chrétien représente Dieu dans l'œuvre de l'évangélisation. Nous avons tous à partager notre foi en Jésus-Christ. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5 et un petit peu le verset 19, mais surtout le verset 20. Donc Dieu a mis en nous, nous les croyants, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, donc c'est ça qu'on dit aux non-croyants, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est notre message d'évangélisation. Les chapitres 10 à 15 incluent l'importance d'aller toujours plus loin avec l'Évangile. Puisque l'Évangile est la bonne nouvelle pour toute personne, Dieu attend à ce que les églises envoient les prédicateurs pour annoncer l'évangile afin que les gens soient sauvés. Donc, je vais faire la conclusion en deux parties. Donc, je m'adresse en premier à vous qui ne croyez pas encore en Jésus. Je veux seulement vous encourager à vous convertir, à croire en Jésus-Christ. Il a tout fait pour que vous puissiez vous mettre en règle avec Dieu. Il ne vous reste rien à faire sauf décider de vous confier aux soins éternels du Seigneur Jésus. Par son évangile, Jésus enlèvera tous vos péchés et il vous accordera la vie éternelle. N'hésitez pas, ne tardez pas. L'offre du salut est valable aujourd'hui, car le lendemain n'est jamais assuré. Pour nous qui avons déjà cru en Jésus-Christ, donc voici quelques exemples pour montrer notre reconnaissance et notre amour envers Dieu. Premièrement, offrez-vous à Dieu pour le servir. Selon vos capacités, donc ce n'est pas à dire que voilà, vous devez tous faire tout. Non, mais selon nos capacités à chacun, devenir un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Seconde chose, étudier la parole de Dieu dans l'objectif de connaître sa volonté et de lui plaire. Donc, évidemment, le baptême du croyant par la forme biblique de l'immersion est le premier pas. Puis, étant baptisé, de vous joindre à une église biblique, donc disons le plus proche de chez vous. Troisième chose, pratiquer l'amour du prochain, et en particulier l'amour les uns envers les autres. Nous avons tous besoin de la communion fraternelle. Nous avons tous besoin de ces relations humaines entre nous, les chrétiens. Jésus a conçu l'église de proximité, donc l'église locale qui est proche, c'est pas à l'autre côté de la France, pour satisfaire les besoins de ses disciples. L'église locale, donc les frères et sœurs qui nous entourent, sont là. L'église est là pour vous. Elle a besoin de vous et vous avez besoin de l'église locale. Quatrième chose, donc, impliquez-vous dans l'œuvre de Dieu. Cinquième chose, selon vos capacités et vos opportunités, participez dans l'œuvre de l'évangélisation. Autant qu'il est important que le non-croyant croie en Jésus-Christ, il est encore plus important que le croyant fasse connaître la voie de la vie au monde. Et enfin, la dernière chose, numéro 6, comptez sur Dieu de tenir ses promesses. Il est fidèle. Il vous aime comme un enfant bien-aimé parce que vous avez aimé son fils. Amen. Amen.